désolé. J'ai accroché l'ordinateur. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. On va l'arranger encore. Voilà. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas vérifié pour le son. Juste un instant. Oui, ça semble aller. Bonjour Maggie, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous aussi. Bonjour Marie-André. Bonjour à Farley. Bonjour Rachel. Bonjour Mona. Bonjour Chantal. Bonjour Ocilia. Bonjour Manon. Bonjour au pasteur André. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour Jude. Bonjour Caridad. Que j'ai raté quelqu'un d'autre. Peut-être, je sais pas. Bonjour à mon père, à ma mère. Salut Daniel. Merci Rachel. Je vais garder le cellulaire près de moi, comme ça je peux voir qui se connecte ou pas. Est-ce que le son est correct pour vous? Il n'est pas trop bas? Lundi 14 mars. Je crois que c'est dans une semaine que le printemps commence officiellement. Mais pour vous tous qui aimez le temps chaud, cette semaine, vous allez être gâtés. Il y a même un jour où il va faire 13 degrés. Bonjour Lucie, soyez bénie. Bonjour à la belle-mère. Shalom. Bonjour Natacha. Merci Manon. Merci à mon père aussi. Donc le son est OK. Natacha, bien sûr, bien le bonjour de surcroît à Indiren et à la petite famille. Hermana Marta, que Dios me la bendiga. Merci Daniel, je vais justement en parler tout à l'heure, vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'être assis hier pendant la prédication. Je vais vous dire un petit secret de prédicateur. Bonjour à vous aussi, Marta Lucia. Et si Lakis est à vos côtés, on le salue aussi. Alors ce matin, on va reprendre l'enseignement d'hier matin. On va aller cette semaine dans cette voie avec la thématique « Seigneur, si tu eusses été ici ». Vous avez encore un bon 5 minutes pour aller chercher votre thé, votre jus d'orange ou votre café. Alors là, vous allez entendre des torrents d'eau à côté de moi. C'est simplement la nénette qui s'en va boire sa flotte. Bon début de semaine à toi aussi, Guy. Dios me la bendiga, hermana Nancy. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Pascal, bonjour. Soyez prudente sur la route. Hermano Miguel Galas, que Dios le bendiga. On peut peut-être faire les annonces en attendant. Il reste encore 4 minutes, mais je vais faire les quelques annonces qu'on a pour cette semaine. Comme vous savez, ce soir, on a encore rencontre avec le pasteur André. C'est le cours sur le livre aux Éphésiens ou l'épître aux Éphésiens. Donc, on vous invite à être là. C'est tout, sur toutes les plateformes Internet de l'Église. Donc, bien entendu, sur la plateforme Facebook, mais aussi sur YouTube et sur la page Internet de l'Église. Demain, on a deux rencontres. Demain matin, la bénédiction matinale. Puis, demain soir, cette fois-ci, c'est la continuation du cours sur les fondements chrétiens. On reprend les cours qui avaient été donnés strictement en présentiel. Donc, c'est demain soir à 19h. Mercredi, on a deux rencontres encore. Le matin et le soir. Le soir, c'est l'étude biblique. Et l'étude biblique, vous pouvez aussi y assister en présentiel. Comme on l'a mentionné hier, les réunions du mercredi et du dimanche matin sont donc du mercredi soir et du dimanche matin sont offertes en présentiel et en ligne. Donc, on vous invite à ne pas vous priver de cette occasion de venir à l'église et puis de recevoir l'enseignement directement sur place et d'avoir un petit moment de communion avec vos frères et vos sœurs. Alors, ça, c'est à 19h mercredi soir. Et puis, donc, jeudi, une seule réunion, le matin, la bénédiction matinale. Vendredi, deux réunions, le matin, le soir. Donc, 8h30 le matin pour la bénédiction matinale. Et le soir, 19h pour un temps de prière et d'intercession, comme on en a l'habitude. Autre information importante, dimanche prochain, là cette fois-ci on était déjà content dimanche dernier, ou hier en fait, les classes de l'école du dimanche ont redémarré, il y avait même une classe avec 14 enfants. Alors ça c'était une grande nouvelle. Dimanche prochain, on réouvre toutes les classes. Donc on a eu une semaine d'entraînement pour les moniteurs. La semaine prochaine, donc dimanche prochain, on réouvre toutes les classes. La seule différence, c'est qu'au niveau de la pouponnière, je crois de 0 à 2 ans, c'est les parents eux-mêmes qui vont être responsables de leurs enfants. Il n'y aura pas quelqu'un d'attitré à la pouponnière. Donc, si vous amenez votre petit à la pouponnière, ce sera votre responsabilité de veiller sur votre enfant et de rester avec votre enfant dans la pouponnière. Sinon, toutes les autres classes vont être opérationnelles de 2 ans jusqu'à 15 ans dimanche prochain et on s'en réjouit énormément. On donne toutes nos félicitations à l'équipe de l'école du dimanche qui a travaillé fort pour relancer ses activités. On est heureux que maintenant les enfants puissent de nouveau avoir leur classe. Donc ça c'est dimanche prochain le matin. Dimanche prochain en après-midi, donc toujours le 20 mars, après l'assemblée à 14h, il y a la réunion générale des membres. Certains appellent ça la réunion d'affaires, la réunion financière, l'assemblée générale, quel que soit le titre que vous voulez y donner, c'est une réunion qui est ouverte strictement aux membres de la congrégation, où on parle des résultats financiers, donc les recettes, l'utilisation des fonds durant l'année 2021, les projets au niveau financier pour cette année. Mais de surcroît à cela, on parle aussi de tout ce qui a été fait au niveau local, au niveau provincial et au niveau international quant à notre implication ministérielle. Et on vous parle des prévisions pour l'année qui vient de débuter. Donc, c'est une responsabilité qu'on comprend, nous, en tant qu'Église, de faire cette réunion générale. Et puis aussi, c'est une demande du gouvernement où on doit, une fois par année, en tant qu'organisme sans but lucratif, donner un rapport à nos membres de l'utilisation des fonds qui sont donnés et puis des projections qu'on a pour l'année à venir. Donc voilà, ça sera dimanche prochain et cette réunion ne se fait pas en présentiel. On avait annoncé que ce serait en présentiel, mais ça va être plutôt en Zoom. Via la plateforme Zoom. On a un problème avec un instrument technique ou un appareil plutôt qui nous permet de faire les livrets. Donc, on ne peut pas faire les livrets qu'on ferait habituellement si on était en présentiel. Donc, on va faire tout cela en Zoom. Pour y assister, il vous faut recevoir le code d'accès et celui-ci est envoyé à tous les membres de la congrégation, en tout cas tous ceux qui figurent sur la dernière mise à jour des membres de l'Église. Donc, si vous craignez de ne pas pouvoir vous joindre à nous, si vous craignez qu'on n'ait pas vos coordonnées et que vous ne receviez donc pas le code pour assister à la réunion d'affaires, on vous invite à écrire au secrétariat de l'Église. Vous connaissez l'adresse courriel secrétariat EAJC en un seul mot, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Je répète, secrétariat EAJC à commercial@gmail.com. Vous nous dites que vous voulez faire partie ou figurer sur la liste des membres et vous nous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre courriel. Et bien entendu, avant chaque réunion, que ce soit la réunion d'affaires ou que ce soit les réunions habituelles, vous recevez un lien pour vous connecter via la plateforme Zoom pour assister en direct et en ligne à nos réunions. Donc voilà, c'était les annonces pour cette semaine. J'ai vu plusieurs personnes qui se sont connectées depuis tout à l'heure. Je vais juste en saluer quelques-unes, essayer de me mettre à jour et après ça on commencera. Bonjour à Ginette et à Gaëtan, mes bons amis de Shawinigan. Bonjour à Marie-Marthe. Bonjour à Marjolaine, si elle est à tes côtés. Bonjour à Myriam et à Donald. Bonjour au frère Bova et à la petite famille. Bonjour à Denise. Bonjour à Gilles, Joanne. Bonjour à Babette et à Andreas. Et je pense qu'on est à jour avec les salutations. Bien sûr, bonjour aussi à tous ceux qui se joignent à nous via la plateforme de l'Église, via le site internet de l'Église ou via les moteurs de recherche habituels que vous pouvez utiliser. Par conséquent, on ne voit pas vos noms, mais on sait que vous êtes là. Alors, soyez bénis. On salue aussi la sœur Florie, le frère Louis, la sœur Suze et la petite famille qui est probablement au travail et à l'école, mais on les salue de toute manière. Alors voilà, on va prier et puis on va commencer donc. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons encore aujourd'hui de méditer ta parole, de prendre cette pause en début de journée pour étudier, pour partager et pour recevoir de toi. On prie Seigneur que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres nos pensées et que tu nous permettes pleinement de recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. En toute chose, Seigneur, non pas à nous la gloire, mais à toi et à toi uniquement, aujourd'hui, demain et dans toute l'éternité. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire ce matin un long passage, le même passage qu'hier. Je ne le relirai pas au complet à tous les jours, mais comme c'est le début de la semaine, et je vous explique aussi pourquoi je suis resté assis hier. Ce n'est pas parce que j'étais fatigué, ce n'est pas parce que j'avais besoin de m'asseoir. C'est que je savais que la thématique qu'on allait aborder allait être sensible pour plusieurs. On parlait de comment on réagit face au Seigneur quand il se passe des circonstances tragiques dans notre vie, quand il se passe des circonstances difficiles dans notre vie. Et je voulais m'assurer de parler avec le plus de calme possible, de parler avec le plus de douceur possible. et de parler sans qu'on puisse se méprendre sur mes intonations. Alors parfois quand on est debout, et comme je suis moitié italien, moitié français, je parle aussi avec les mains. Donc parfois de bouger beaucoup, ben, ça donne un autre feeling, on va dire en bon québécois, une autre impression où ça nous permet de lire la prédication différemment. Donc je voulais m'assurer que personne ne se méprenne, qu'il n'y avait pas ni d'arrogance, ni de sévérité dans mes propos, mais qu'ils étaient les plus emplis de compassion et de douceur qui soient. Alors je me disais qu'en le faisant assis, ça me garderait sur place, ça me garderait calme, ça me garderait un peu mal à l'aise parce que je suis plus à l'aise pour prêcher debout. Mais l'objectif était vraiment, et ça c'est une tactique de prédicateur, c'était vraiment de m'assurer. Je sentais de le faire, je ne le ferai pas tous les dimanches, mais je sentais de le faire, de parler avec extrêmement de douceur. Alors, j'espère que le message est passé comme ça. Pour ceux qui craignaient que j'étais soit malade, fatigué ou autre, ce n'était pas le cas. J'étais peut-être un peu fatigué, mais ce n'est pas pour ça que j'étais assis. C'était vraiment pour toute l'atmosphère que ça pouvait dégager. Et plusieurs, comme Daniel l'a dit ce matin, trouvaient que c'était intéressant, que ça faisait une atmosphère un peu plus intime ou intimiste. Donc, si ça a permis à ce que le message passe, j'en suis très content. Alors, je lis pour vous dans Jean 11, du verset 1 à 45. Comme j'ai dit, c'est une longue lecture, mais on le fait aujourd'hui, on ne le fera pas les autres jours. Et on va revenir juste sur quatre points pour mettre les bases des enseignements de cette semaine. Alors, je lis pour vous. Jean 11, le verset 1. Je vais agrandir un peu le caractère. Voilà. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement, du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, Le Maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, Elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il lui dit, Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, Viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare! Sors! Et le mort sortit, et les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ce matin, on va s'arrêter sur une phrase prononcée tant par Marthe que par Marie. On voit Marthe qui s'adresse à Jésus au verset 21, la sœur de Lazare qui, ayant appris que Jésus était proche de Béthanie, va sortir de la maison de deuil, de la maison familiale, et aller à la rencontre de Jésus. Et étant arrivée près de lui, elle lui dit au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelques versets plus tard, après que Jésus ait une conversation avec Marthe et que Marthe ait secrètement fait appeler sa sœur en lui disant, Le maître veut te voir ou le maître veut te parler. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, se pointe elle aussi près de Jésus et elle aussi au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Deux fois la même phrase en quelques minutes. Par deux sœurs qui vivent les mêmes circonstances. Deux sœurs qui sont dans le deuil d'un frère qu'elles viennent de mettre dans le sépulcre depuis déjà 4 jours. Et qui, lorsque leur ami intime, Jésus, s'approche de la ville pour les visiter, et voir comment Lazare va, même si Jésus en fait le sait déjà, comment va Lazare, ces deux sœurs vont s'approcher de Jésus avec cette même phrase. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Premièrement, c'est le mot Seigneur. Très souvent, lorsque on lit ce texte, on regarde un peu Marthe et Marie comme étant des femmes avec un peu un manque de foi, où Jésus serait comme en train de leur faire des remontrances. Que ce soit très clair, Jésus n'a fait aucune remontrance ni à Marthe, ni à Marie. Même si, et on va l'étudier cette semaine, ce que Marthe va faire, c'est pas très gentil, c'est pas très beau. On va expliquer comment Marthe a monté une espèce de stratagème, comment Marthe a réagi, et on va se rendre compte que Marthe n'était pas la croyante optimale, va-t-on dire, où elle manifestait pas sa foi comme il se devait. Mais ça, on le verra durant cette semaine. Toutefois, lorsqu'elle dit « Seigneur », c'est tout à fait réel. À l'occasion, lorsque Jésus se fait appeler Seigneur, il va dire aux gens qui l'interpellent avec ce titre, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande ?» Mais dans le cas de Marthe, de Marie, lorsqu'elle lui dit « Seigneur », il les croit. Et on sait très bien que auprès de Jésus, on ne peut pas jouer la comédie. Il sait très bien si nos propos sont réels ou faux. Il sait très bien si notre attachement à lui est réel ou faux. Et lorsque Marthe dit « Seigneur », lorsque Marie dit « Seigneur », elles tiennent vraiment à ce titre. Elles expriment vraiment le respect, le lien qu'elles ont avec Jésus. Rappelons-nous que la Bible nous dit, c'est dans ce passage, que Marie est celle qui aura été pleurée et qui aura été répandre du parfum sur les pieds de Jésus et qui l'aura asséché avec ses propres cheveux. Donc, c'était des gens qui étaient non seulement attachés à Jésus, mais des gens à qui Jésus était attaché. Et il y a peu de passages dans les Écritures où on voit ce lien d'amitié, ce lien d'affection profond que Jésus peut avoir à l'égard de quelqu'un en particulier. Mais ici, on nous le dit clairement, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Pourquoi je fais cette mise au point? C'est que très souvent, lorsqu'il se passe quelque chose dans la vie d'un frère ou d'une sœur, dans notre Église contemporaine, va-t-on dire, on essaie de trouver les raisons pour lesquelles les choses se passent. Quelqu'un tombe malade, on essaie de savoir pourquoi la personne tombe malade. Quelqu'un perd son emploi, on essaie de comprendre ce qui a amené à la perte de l'emploi. Quelqu'un a un accident, on essaie de trouver la raison pour laquelle il y a eu un accident. Et la raison se résume très souvent dans cette excuse, dans cette prétention que si effectivement il s'est passé telle ou telle chose dans la vie de ce frère ou de cette sœur, c'est qu'assurément ils étaient hors de la protection de Dieu, donc dans le péché, dans une vie secrète inadéquate, qu'ils étaient donc dans une mauvaise relation avec Dieu. Ici, la Bible nous dit, Jésus aimait Marthe, Marie, Lazare. Et cet amour était réciproque. Ce n'est pas parce que Lazare est mort que c'était une raison de péché, que c'était une raison ou que sa mort était en raison du péché et que les attentes de ses sœurs quant à une guérison étaient refusées à cause d'une double vie que ses sœurs pourraient mener. Donc faisons déjà attention de se méprendre sur les raisons qu'on invoque quant au malheur d'un frère ou d'une sœur, quant aux difficultés d'un frère ou d'une sœur. Pourquoi Lazare est-il mort dans cette histoire? La Bible nous dit, Jésus va le dire lui-même, pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Donc Jésus avait à être glorifié à travers la mort de Lazare. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de consolation s'il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas d'apaisement s'il n'y a pas d'inquiétude. Très souvent, on voudrait laisser croire aux gens que tu viens à Jésus et dorénavant, tu n'auras plus aucune inquiétude. Dorénavant, tu n'auras plus aucun pépin. Dorénavant, tu n'auras plus aucune maladie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, où les gens vont se méprendre sur le verset où Jean va dire « Mon désir pour toi, mon enfant, c'est que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ta foi. » Ils ont extrapolé la chose pour amener une doctrine de démon qui voudrait laisser croire que si tu viens à Jésus, il n'y a plus de malheur qui t'attend, il n'y a plus de difficultés qui t'attendent, il n'y a plus de désarroi qui t'attend. Mais c'est complètement faux et ce n'est pas du tout biblique. La Bible nous dit que Jésus est mort crucifié. Alors si cet évangile de la prospérité fonctionnait sur Jésus, ben il ne serait pas mort mis en croix. La Bible nous dit que Paul a été arrêté et que lorsqu'il écrit à Timothée en disant que lui sert déjà de libation, que sa vie est terminée, il sait qu'il va être mis à mort. Il est dans les chaînes à Rome ou dans les chaînes qui le mènent à Rome. Lorsque Jésus va parler à Pierre en lui annonçant sa mort, que va-t-il dire? Il va dire à Pierre, jusqu'à présent, tu es allé là où tu voulais aller. Mais un jour, on va venir, on va te lier, on va te ceindre, et tu iras là où tu ne veux pas aller. Et les Écritures nous disent que Jésus parlait à cette occasion de la mort que devrait subir Pierre. Ça veut donc dire que Pierre est aussi mort en tant que martyr. On nous dit que Jean a été envoyé comme prisonnier, isolé, à l'île de Patmos. Ça veut dire que Jean a souffert les affres liées à une foi qu'il avait démontrée et les affres liées à la réprobation ou à la répression dont il a été victime. Lorsque l'auteur aux Hébreux, à l'Épître aux Hébreux, nous parle dans Hébreux au chapitre 11, environ 60 à 80 ans après la mort de Jésus, donc après cet instant où Jésus va lancer l'Église, qu'est-ce qu'on nous dit des croyants de l'époque? On nous dit que plusieurs d'entre eux ont été écartelés, que plusieurs d'entre eux ont été découpés, que plusieurs d'entre eux ont été mis au bûcher, que plusieurs d'entre eux ont dû fuir, se réfugier dans des grottes, que plusieurs d'entre eux ont dû laisser leur terre d'origine pour errer ça et là. Pourquoi? Parce qu'il y avait répression. Quelques années plus tôt, environ 30 ou 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus, on voit le premier martyr, Étienne, qui a été lapidé. Est-ce que ces hommes ont été lapidés? Est-ce que ces hommes ont été persécutés parce qu'ils étaient en mauvais termes avec Jésus? Absolument pas. Donc aujourd'hui, de prétendre que quelqu'un pourrait passer par des moments difficiles parce qu'il est en mauvaise communion avec son Seigneur, parce qu'il est en fait lié au péché, c'est être présomptueux et c'est présumer du mal. Alors que la Bible nous dit, dans ce passage si célèbre qui nous parle de l'amour, dit « l'amour ne présume pas du mal ». Alors faisons attention lorsqu'on est rapide sur la gâchette quant à accuser un frère et lui dire « s'il t'arrive toutes ces bad luck » en bon québécois ou toutes ces malchances en français un peu plus approprié, c'est parce que tu es en mauvais terme avec Jésus. Paul n'était pas en mauvais terme avec Jésus, Et Paul a été persécuté, frappé, accusé, mis à mort. Faisons attention. Et lorsqu'on parle d'une telle manière à travers son chapeau, ce qu'on fait en même temps, c'est qu'on prétend savoir quelque chose de la part de Dieu qui est totalement faux. Et il y a danger à prétendre être la voix de Dieu. Il y a danger à omettre une opinion à la place de Dieu. Celui qui juge les cœurs, les pensées, c'est Christ. Ça prend des faits concrets pour arriver à un jugement concernant quelqu'un. Alors, à moins que tu n'aies des preuves de la double vie d'un frère, à moins que tu n'aies les preuves tangibles, palpables, de la faute d'une sœur, tu ne peux pas prétendre que les choses difficiles qu'elle traverse sont liées à un péché qui est caché. Faisons attention. Alors, lorsque les femmes, Marthe et Marie, ont dit « Seigneur », Jésus était réellement leur Seigneur. Mais par conséquent, ça veut donc nous dire que même si je suis chrétien, je peux passer par des moments difficiles, assurément. Pourquoi un chrétien peut-il être malade? Mais tout simplement parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché et qu'à partir de ce moment-là, la santé qui était parfaite chez l'être humain s'est mise à tomber en décrépitude. À partir du péché initial, nous n'étions plus éternels. La Bible nous dit, et Dieu avait dit à Adam et Ève, « Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la première chose qui va vous arriver, c'est que vous allez mourir. » Ce n'était pas que c'était une mort instantanée, mais c'était une mort qui allait survenir après un certain temps. Vous n'aurez pas une vie éternelle, perpétuelle. Vous connaîtrez la mort. Et comment en vient-on à la mort? À part lorsque c'est des accidents ou des mises à mort comme des meurtres, ben chacun d'entre nous, à un moment donné, notre cœur s'arrête. Et si notre cœur s'arrête de battre, c'est pas parce que il s'est tout simplement arrêté. On appelle ça une crise cardiaque. On appelle ça un arrêt cardiaque. Peu importe comment tu vas mourir, c'est la conséquence du péché dans ta vie qui fait que tu meurs. C'est aussi la conséquence du péché qui, dans nos vies, a amené la maladie. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait pas de tristesse. Ce que nous allons tous redécouvrir, réexpérimenter lorsque nous serons avec Dieu pour l'éternité. Lorsque nous serons dans sa demeure éternelle, il n'y aura plus là-bas ni pleurs, ni larmes, ni tristesse, ni maladie, ni mort. Nous reviendrons à cet état dans lequel, initialement, l'homme avait été créé, où il ne connaissait ni maladie, ni mort. Et aujourd'hui, pourquoi un chrétien peut-il être malade? Mais un chrétien peut être malade parce que sa nature, son corps, n'a pas encore été glorifié. Nous ne sommes pas dans cette nouvelle nature qui sera nôtre ou dans ce nouveau corps qui sera nôtre lorsque nous serons pour l'éternité avec Jésus. Le corps que nous avons ici-bas tombe en lambeaux. Non, le corps que nous avons ici-bas pour le moment est un corps qui se fatigue, un corps qui se détériore et inévitablement un corps qui tombe malade. Un chrétien, il est normal qu'il ait la grippe. Un chrétien, c'est normal qu'il soit sensible à une indigestion. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as plus d'indigestion. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as plus de reflux gastro-œsophagien. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as plus de migraines. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es protégé des otites. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es protégé d'un virus quelconque. Notre nature pécheresse a eu cette incidence sur notre corps physique qui fait que nous pouvons être malades. Et voilà pourquoi Lazare est tombé malade et que Lazare en est même mort. Mais lorsque les femmes disent Seigneur, leur Seigneur est réel. Et on va s'arrêter là-dessus ce matin. Elles l'appellent Seigneur et elles ont le droit de l'appeler Seigneur. Et ce Seigneur, Jésus, ne leur dit en aucune manière, vous n'avez pas le droit de m'appeler Seigneur parce que je ne le suis pas. Il reçoit pleinement, favorablement, cet appel de Seigneur, même si elles sont pécheresses, même si elles sont sujettes à la maladie, même si elles sont dans un profond désarroi. Ça serait insensible de la part de Jésus d'arriver à la maison de deuil et parce que Jésus est là, que je laisse tomber mon deuil et que de façon comédienne, on va dire, de façon théâtrale, je sois maintenant joyeux. J'ai le droit de pleurer. Je suis un garçon qui a lu un tas d'histoires avec des héros imposants quand j'étais jeune. J'ai étudié en littérature, mon personnage favori, mon personnage préféré, était Jean Valjean, d'une des histoires les plus tristes de la littérature française, avec le titre en fait le plus terrible et le plus triste de la littérature française, Les Misérables. Le personnage principal, c'est Jean Valjean, un ancien prisonnier qui va refaire sa vie et en cachant un faux crime qu'il n'avait en fait pas commis, mais pour lequel la police le recherchait malgré tout. Et à un moment donné, ce Jean Valjean se retrouve dans une scène particulière et il est entouré de brigands. Et lorsque les brigands s'apprêtent à sauter sur lui, lui prend un fer qui était chauffé à rouge et il se le pose sur l'avant-bras sans laisser paraître quelque douleur que ce soit. Et cette scène va effrayer, pour ceux qui connaissent les Misérables, qui va effrayer Thénardier, qui va effrayer les brigands qui l'entourent, et ils vont fuir parce qu'ils se disent « Mais quel est ce type qui est si fort que même un fer rouge plaqué sur son avant-bras ne le fait même pas frémir. » Et moi, l'image que j'avais de mes héros, c'était cet homme-là qui ne pleure pas, cet homme-là qui ne dégage aucune émotion. Et je dois vous dire que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui m'affecte encore. Pourquoi je dis m'affecte et pas qui m'assiste? Parce que je pense qu'à un moment donné, on est tombé dans une extrême qui n'était pas la bonne. Lorsque j'ai été malade, j'ai passé parfois des heures, et je vous l'ai déjà expliqué, dans la salle de bain à pleurer. Pas parce que je doutais, pas parce que j'avais peur, pas parce que je craignais de mourir. Ça, à partir du moment où j'ai dit à Dieu, « Seigneur, tout est correct, tu peux me garder ou m'emporter avec toi », je n'avais plus aucune crainte quant à rester ou partir. Mais il est arrivé des moments où le seul soulagement que j'avais par rapport au stress, à la pression que je sentais en moi et à l'épuisement total que suscitait la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie va t'amener dans des secteurs de ton être que j'avais jamais connu auparavant. J'ai été fatigué comme jamais auparavant, mais jusqu'à ce que l'âme même soit fatiguée. Et mon seul soulagement, c'était de pleurer pendant une ou deux heures sous la douche. Et ce jour-là, j'ai compris une chose. Les larmes sont une création de Dieu pour permettre au trop-plein en nous de sortir. À un moment donné, il faut que la pression sorte. Et quand j'avais vidé toutes les larmes que j'avais dans mon corps, je sortais et là j'étais paisible et je pouvais fonctionner pour une autre séquence, pour une autre section de chemin. Ne craignons pas les larmes. elles viennent création de Dieu. Dieu a créé l'homme capable de pleurer. Et Dieu a créé l'homme avec ce besoin, à l'occasion, de pleurer. Et les larmes sont ce système que Dieu nous a donné pour faire sortir le trop-plein. Jésus n'est pas insensible à cela. Jésus n'est pas insensible à tes larmes. Il va même dire à un moment donné que celui qui sèmera avec larmes récoltera avec action de grâce. Ça veut dire que parfois, tu peux même faire le travail de Dieu avec des larmes. Parfois, le travail de Dieu peut être demandant, peut être difficile et peut te pousser jusqu'aux larmes. Mais il dit, celui qui aura semé avec larmes récoltera avec cri de joie ou avec action de grâce. Alors mon frère, ma sœur, même si tu as mal, et même si tu pleures, ça ne remet pas en question la Seigneurie de Jésus sur ta vie. Et Jésus ne te regarde pas ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, en te disant, en voilà un autre qui est encore trop sensible. En voilà un qui, sur qui je ne peux pas compter, il est en train de pleurnicher. Non, Dieu recueille chacune de tes larmes. Et lorsque tu l'appelles Seigneur, il te dit oui, mon serviteur, oui, ma servante. Faisons attention lorsqu'on est trop rapide à juger nos frères et nos sœurs. Il y en a qui ont mal, ils ont beaucoup plus besoin d'affection de notre part, de sollicitude de notre part, de compassion de notre part, que d'un jugement qui lui dit « T'as certainement péché. » Ceux qui ont fait ça dans la parole de Dieu, ce sont les amis de Job, qui sont allés voir Job dans le pire des malheurs qui était le sien, en lui disant « Assurément, t'as péché contre Dieu. Mets-toi en règle. » Et la Bible nous dit que Dieu va réprimander ces trois hommes qui se disaient amis de Job, mais qui foncièrement étaient là en train de le critiquer de façon acerbe. De tels amis, on peut s'en passer. Je ne veux pas me passer de toi, mon frère. Je ne veux pas me passer de toi, ma sœur. Donc, lorsque nous voyons quelqu'un pleurer, pleurons avec lui. Soutenons-le par nos pleurs aussi. Partageons sa tristesse. Pleurons avec ceux qui pleurent. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Alors merci Seigneur pour ce temps qui nous ramène, Seigneur, à l'ordre. Je prie ce matin pour ma sœur qui peut-être serait dans un moment d'abattement. Je prie pour mon frère qui aujourd'hui serait peut-être dans la tristesse. Seigneur, tu es cette source de paix qui dépasse l'entendement. Pour l'avoir moi-même expérimenté, je sais, Seigneur, que tu peux pourvoir cette paix. Aujourd'hui, Seigneur, je prie que de façon palpable et tangible, mon frère, ma sœur, puisse ressentir ta douce présence à leur côté. Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence comme jamais auparavant. Et assurément, les sentiments, Seigneur, qui les habitent seront apaisés, calmés, changés. Aujourd'hui, Prince de paix, fais ton entrée dans la journée de ma sœur. Aujourd'hui, Prince de paix, fais ton entrée dans la journée de mon frère. Et change le deuil en allégresse à cause de ta présence. Merci Seigneur de ce que tu nous entoures. Merci que tu suscites, de ce que tu suscites des frères et des sœurs à nos côtés pour pleurer avec nous lorsque nous sommes dans les pleurs et pour se réjouir avec nous lorsque nous sommes aussi dans ce temps de réjouissance. En toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans ce précieux et glorieux nom qui est notre refuge encore aujourd'hui, le nom de Jésus. Amen. Voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle, ce soir, il y a un autre rendez-vous avec le pasteur André. C'est à 19h pour l'étude biblique sur, ou le cours biblique sur l'épître aux Éphésiens. Donc on vous invite à être là. C'est sur Zoom et sur Facebook et bien entendu aussi sur la page Internet de l'Église. Donc 19h avec le pasteur André. Pour nous, on se retrouve demain matin pour la suite de cet enseignement. Si tu eusses été là, Seigneur, si tu avais été là. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve ce soir avec le pasteur André et demain matin avec la poursuite de notre enseignement. Bonne journée à tous.